Bon, bonjour à tous. Merci pour cette opportunité de présenter sur l'électronique soutenable. Donc je vais essayer de vous faire une overview des challenges et aussi des opportunités qui s'offrent à nous avec un mouvement qui est fort en ce moment, qui est l'open hardware. Voilà, donc je suis Maxime Pelka, je suis enseignant-chercheur à l'INSA Rennes et à l'IETR, et je participe au GDR SOC 2. Donc déjà, c'est quoi l'électronique soutenable? Alors déjà, c'est quoi l'électronique? Donc électronique, je la prends au sens très très large, donc à la fois les objets électroniques et puis les objets électriques. Quand on parle de EEE, c'est Electrical and Electronic Equipment, ça couvre à la fois tout équipement qui inclut des moteurs, des systèmes électriques et puis des systèmes électroniques. Et en général, quand on parle de e-waste, notamment pour les déchets, on va parler de EEE equipment et on va prendre ces déchets au sens large de tous les équipements électriques et électroniques. Et donc ces équipements-là, ils sont hyper larges en fait dans notre maison, nous en avons partout. Nous en avons, donc là, il y en a une centaine sur cette liste-là, il en manque. Que ça va du jouet qui parle au grille-pain, etc. Tout équipement qui contient l'électronique, il faut réfléchir notamment à son impact sur la soutenabilité. Et donc parmi tous ces équipements-là, il y en a quelques-uns dont on entend beaucoup parler, qui sont l'ordinateur, le smartphone, la tablette. Et tous les équipements Internet qu'on va regrouper dans les systèmes de numériques. Mais dans tous les autres équipements qu'on retrouve ici, on a de plus en plus des petits microcontrôleurs qui traînent, de l'électronique un peu partout, avec des cartes, avec des PCB. Et on va trouver de l'électronique dans tous les systèmes de production d'énergie, dans tous les systèmes de transport, dans les data centers. Donc l'électronique est extrêmement distribuée aujourd'hui, et toute cette électronique a un impact. Donc ça, c'est une étude qui date de 2017 du marché de l'électronique au sens large. Donc on voit que si on prend justement cette électronique au sens large, le marché global, c'est 43 000 milliards d'euros par an. Donc c'est absolument gigantesque. Et ce marché-là, même si on regarde que les cartes électroniques qui sont incluses dans les systèmes elles-mêmes, c'est encore 1 200 milliards d'euros, et ça grossit très très vite. Alors ça, c'est un chiffre de 2017. Tu me dis si tu veux.
Je voulais baisser la barre, mais j'y arrive pas. Vas-y, continue.
Donc c'est un chiffre de 2017, et on voit que les semi-conducteurs, c'est 300 milliards d'euros, 320. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 600 milliards depuis 2017. Donc ça grossit extrêmement vite, en fait. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la moitié des systèmes électroniques partent dans l'électronique grand public, l'autre moitié plutôt dans l'électronique professionnelle, et puis ça couvre toutes les industries, automobiles, etc. Hop. Donc l'électronique soutenable, c'est quoi? Ce serait de l'électronique qui respecte la soutenabilité au sens du rapport Brundtland, c'est-à-dire qui répond aux besoins des générations présentes sans mettre en cause les générations futures. Donc ça pose des questions. Quels sont les besoins des générations présentes? Ça, on peut le voir à travers ce qu'on achète, en fait, hein, à travers les marchés. Et puis, quels sont les besoins des générations futures et comment les compromet-on potentiellement aujourd'hui? Donc on en entend parler énormément dans les news, en fait, hein, de façon parfois souvent assez anxiogène aujourd'hui, notamment sur le réchauffement climatique, sur les déchets, etc. Donc comment est-ce qu'on fait le lien, en fait, entre l'électronique? Alors je ne veux pas faire de l'électronique bashing, aujourd'hui on résout plein de problèmes intéressants avec l'électronique, et c'est pour... L'électronique sert à beaucoup de solutions de problèmes de soutenabilité, et en même temps, elle a un impact qu'il va falloir adresser rapidement. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on design et qu'on construit de l'électronique aujourd'hui, quels sont les impacts de soutenabilité de l'électronique en me concentrant sur le réchauffement climatique, et puis comment agir. Donc là, on va avoir plein de présentations pendant ces deux jours sur ces sujets-là. Qui vont aller dans le sens de la basse énergie, de l'analyse de cycle de vie et de l'extension notamment de la durée de vie des produits et retarder l'obsolescence. Et comment les nouvelles technologies hardware open source peuvent aider pour ça. Donc l'électronique, j'ai pris juste quelques cartes qui traînaient sur mon bureau. C'est avant tout des PCB avec des composants soudés dessus. Donc à différentes échelles, avec différentes consommations électriques. Ces composants, il y a des composants semi-conducteurs, il y a des composants chimiques, il y a des composants électromécaniques. Le semi-conducteur domine aujourd'hui, hein, c'est la majorité des impacts des composants. On les relie entre eux par beaucoup de câbles, par des fibres optiques, par des satellites. Et puis, on va à la fois créer des petits systèmes embarqués, type téléphone, avec ces PCB, et des gros serveurs qui vont intégrer une très grande quantité de cartes et de moyens de communication. Et donc, pour amener l'énergie dans tous ces systèmes-là, on met de l'électronique de puissance avec des composants beaucoup chimiques et des composants de taille non négligeable en général. Donc, la miniaturisation de cette électronique de puissance est notamment un enjeu également. Donc, si on prend la notion de système au sens large, dans un système, on va trouver des capteurs, des actionneurs, du calcul, du stockage de données, de la gestion d'énergie, et puis de la communication, des moyens de communication. Et puis, sur la partie calcul, on va trouver cette pile qui part de l'interface vers le matériel, vers des systèmes d'opération, des librairies, des applications. Et donc, toute cette pile-là, si on veut comprendre les enjeux de soutenabilité, il faut la comprendre, et il faut être capable de faire des analyses de cycle de vie sur l'ensemble. Et la difficulté, c'est que cette pile, elle est extrêmement complexe, et elle est construite à partir de systèmes qui viennent de beaucoup de fournisseurs différents, dans une chaîne de fournisseurs, dans une supply chain complexe. Donc le GDR SOC2 couvre beaucoup d'aspects différents de ces systèmes. Donc il est organisé en 7 parties, une partie sur le calcul embarqué haute performance, une partie sur les circuits à signaux mixtes, radiofréquences, une partie sur la conception de systèmes robustes, fiables et sécurisés, et puis des axes transverses, donc au niveau plus applicatif sur les systèmes connectés pour les transitions, au niveau plus matériel, bas niveau sur les technologies du futur, une partie sur les méthodes et outils de conception des systèmes, et puis une partie intelligence artificielle, au vu de l'importance que prennent les méthodes d'intelligence artificielle dans tous ces sujets. Et donc, SOC 2, pourquoi ? C'est système on a chip, c'est le premier SOC, et le deuxième SOC, c'est système et objet connecté. Donc, dans ma tête, c'est soit on prend au niveau à l'intérieur d'un chip, d'un IC, soit on prend au niveau du PCB, en fait. Et donc si on regarde maintenant comment l'industrie fabrique ces systèmes, on part d'un OEM, un Original Equipment Manufacturer, qui est le fabricant de téléphones ou de PC ou autre, qui suit une chaîne de fournisseurs, qu'on va appeler les tier. Mon accent est sans doute pas du tout bon là-dessus. Donc tier 1, tier 2, tier 3, etc. Et donc un exemple pour un téléphone, par exemple, c'est que le tier 1, ce sera le fournisseur de PCB, de printed circuit. De circuits imprimés, pardon. Le tier 2, ça va être le par exemple des fournisseurs de composants intégrés. Le tier 3, ça va être le fournisseur de wafers, etc. Jusqu'à remonter jusqu'aux minéraux, en fait. Jusqu'aux métaux, jusqu'à tous les matériaux de base qui vont être intégrés. Donc voilà, pour l'électronique telle qu'elle est construite aujourd'hui. Et si on parle maintenant de soutenabilité, donc les Nations Unies nous donnent ces 17 objectifs de soutenabilité. Combattre la pauvreté, la faim, aller dans le sens d'une bonne santé, d'une éducation de qualité, l'égalité des sexes, accès à une eau de qualité, à une énergie qu'on peut se permettre et propre. Le développement économique, l'industrialisation et l'innovation, la réduction des inégalités, les villes soutenables, la production responsable et la consommation responsable. Il y a une action spécifique sur le climat. Et ensuite, la vie aquatique, la vie sur la terre, et puis la paix, la justice, les institutions et donc le travailler ensemble pour arriver à tous ces buts-là. Et pourquoi je prends le temps de parcourir tous les objectifs, en fait, c'est que l'électronique, on s'en sert beaucoup aujourd'hui pour travailler sur tous ces buts-là, en fait. Quand on parle de Sustainable Cities, il y a plein de gens qui font des projets sur les Smart Cities, sur essayer d'optimiser l'efficacité, notamment énergétique, des villes. Dans toutes les actions climat, il y a tout ce qui se passe, notamment ici, aujourd'hui. Et donc sur plein d'aspects, et également sur l'énergie d'ailleurs, sur l'action 7, qui est souvent très liée. Et donc l'électronique est très impliquée en fait dans tous ces sujets-là, notamment en termes de bilan positif sur les transitions énergétiques. Donc on met de l'électronique pour produire de l'énergie à partir de panneaux solaires, avec des éoliennes, on électrifie les voitures, donc il y a besoin de plus en plus d'électronique en fait, et donc on en produit de plus en plus. Et ça, on le voit dans les chiffres, les marchés deviennent gigantesques. Et puis on l'emploie aussi pour faire de l'observation, pour faire de l'efficacité énergétique, y compris dans les smart grids. Et donc dans les bilans négatifs, c'est la production d'électronique, elle nécessite beaucoup de matériaux, des matériaux abiotiques. Elle émet beaucoup de gaz à effet de serre, donc ça je vais vous en parler un peu après. Elle nécessite beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie. Et puis quand on a fini d'utiliser ces produits, ce qui est en général très court, Intel évalue la durée moyenne d'un de ces produits la durée moyenne de ces produits à 4 ans et 4 mois. Et bien ces produits-là, il y en a 17% qui est recyclé. Là, je prends un petit peu d'avance sur la suite, mais donc il y a très très peu de recyclage en fait dans les faits. Donc si on regarde le rapport entre électronique et soutenabilité, on peut prendre la pyramide de Maslow. Ce qui est intéressant, c'est qu'il intervient un petit peu à tous les niveaux. En fait, on utilise l'électronique aujourd'hui pour notamment pour être connecté avec nos proches, même s'ils sont à l'autre bout de la planète. Donc le haut de la pyramide. Donc, déjà, vous introduire la pyramide de Maslow, l'idée c'est qu'on a des besoins de base et on construit les besoins supérieurs en fait à partir du moment où les besoins de base sont respectés. Tant qu'on n'a pas construit les besoins de base, on ne peut pas travailler sur les niveaux supérieurs. Et donc ce qui est intéressant, c'est que l'électronique sert beaucoup au haut de la pyramide, c'est-à-dire la réalisation personnelle, l'estime, les rapports avec les proches. Par contre, actuellement, les déchets qu'on produit et le réchauffement climatique mettent en cause finalement des besoins beaucoup plus en bas de la pyramide, qui sont l'accès à l'eau de qualité, l'accès à de la nourriture de qualité, etc. Donc, donc pour détailler un petit peu, si on regarde les côtés éthique et droits humains. L'électronique est un marché mondialisé, donc on achète des produits à des entreprises qui elles-mêmes achètent dans cette chaîne de fournisseurs parfois des produits qui sont dans des standards sociaux beaucoup plus bas que les nôtres. Donc dans ces cas-là, dans la chaîne de fournisseurs, on va parler de upstream quand on remonte vers le matériau. Et donc là, il faut faire attention que les entreprises sous-traitantes et sous-traitantes de sous-traitantes garantissent des droits, donc des droits pour leurs employés, pour les communautés dans lesquelles ils travaillent et puis pour les sociétés dans lesquelles ils s'inscrivent. En termes de ressources abiotiques, c'est une illustration qui est tirée du livre de Michael Ashby qui est très complet sur le domaine. Il y a à peu près 55 matériaux différents qui sont utilisés dans les téléphones aujourd'hui. Dont des terres rares, dont des matériaux très difficiles à obtenir et qui eux-mêmes coûtent beaucoup d'énergie et produisent beaucoup de CO2 à produire. Alors CO2 ou gaz à effet de serre. Et en termes de déchets, donc on produit en 2019, on a produit 53 millions de tonnes de déchets EEE, donc de déchets électroniques, et ça augmente de 3 à 5% par an, cette quantité de déchets qui sont produits. Donc ça, vous avez le Global E-Waste Monitor de l'ONU qui recense tout ça. Alors là, on parle bien de EEE, c'est-à-dire la machine à laver, c'est dedans. Hein. C'est pas que, on ne parle pas que de PCB. J'ai aucun chiffre sur la quantité de PCB qui finit à la poubelle. Donc c'est des choses à étudier et c'est des choses sur lesquelles il faudrait qu'on ait plus de chiffres, en fait. Je pense qu'on n'a pas assez d'informations encore là-dessus. Donc petit focus sur le réchauffement climatique. Ça, c'est des chiffres récents sur le réchauffement prévu en France. Donc on voit qu'on n'est pas, on est sur des réchauffements d'ici 2100 qui sont plus importants que ce qu'on entend en général aux news, donc qui sont plutôt de l'ordre de 3 degrés. Donc ça dépend des régions de la planète, en fait. Et puis ça dépend des modèles. Et donc, on sait. Alors, si on suit les modèles du GIEC, donc IPCC en anglais, le scénario 1,5 degré du GIEC, c'est il faut viser 8 gigatonnes de CO2, c'est la partie verte là. Et on est la somme de l'ensemble, donc on est à 59 gigatonnes de CO2, on était à 59 gigatonnes en 2019. Donc, en gros, il faut faire un facteur 7. 6 ou 7, voilà, ça dépend des chiffres, ça dépend des modèles. Donc il faut que d'ici 2050, on fasse un facteur 7 de la forme qu'on veut, mais qu'on ait atteint à peu près un facteur 7. Et en fait, donc il y a un rapport de l'ONU récent qui s'appelle The Closing Window, que je vous conseille, qui montre qu'on n'y est pas, et donc qui donne des recommandations sur comment faire et comment aller vers ce facteur 7. Alors là-dedans, c'est compliqué, hein, parce que ça, c'est l'ensemble des émissions humaines. La partie bleue, c'est les énergies fossiles pour l'énergie. La partie orange, c'est la déforestation. La partie rouge, c'est le méthane. Et alors la partie verte qui est tout en haut, les gaz fluorés, c'est intéressant pour l'électronique parce qu'il y en a énormément qui sont émis pour la fabrication, en fait. La fabrication de semi-conducteurs, alors pour graver le semi-conducteur, pour nettoyer les chambres de fabrication, produit beaucoup de gaz fluorés. Et le pire de ces gaz, qui est le SF6, 1 kg de SF6, c'est l'équivalent de 26 tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère. Donc en fait, il y en a assez peu qui est émis, mais c'est des gaz extrêmement puissants en effet de serre. Un papier de l'année dernière a fait un bilan en fait entre le carbone émis ou le gaz à effet de serre émis à la fabrication et celui émis à l'utilisation d'un produit. Et donc, si on regarde le cycle, alors là le cycle, on part de la nature, on récupère des matériaux, donc il y a toute la partie mine, fonderie, raffinerie. Ensuite, manufacture du produit, on utilise le produit, fin de vie. On en met la plupart à la poubelle, une partie est récupérée, une partie finit de nouveau à la poubelle, et puis une partie est recyclée et re-rentre dans le cycle. Donc la partie utilisation du produit, on peut appeler ça l'OPEX, Operational Expenditure, qu'est-ce qu'on dépense à l'utilisation en fait. Donc c'est typiquement l'énergie, hein, l'énergie qu'on apporte au téléphone ou au PC pour l'utiliser. Et le reste c'est le CAPEX, donc Capital Expenditure, pour la fabrication et la fin de vie. Et donc si on regarde sur un iPhone, donc entre l'iPhone 3 et l'iPhone 12, ce qu'on peut voir, c'est que l'OPEX, il baisse. Alors l'OPEX, il baisse pourquoi? Parce que les ingénieurs qui ont créé les systèmes, ils sont très bons. Donc ils ont très bien optimisé leur système pour qu'ils consomment très peu d'énergie. Et par contre, le embodied footprint, c'est-à-dire le CAPEX, lui, prend une part de plus en plus faible. Alors pardon, je suis en train de vous mélanger le truc. L'embodied footprint, c'est celui de la fabrication, et l'opérationnel, c'est celui de l'utilisation. Et donc vous voyez que la partie bleue grossit. Et donc maintenant, c'est 85% dans un téléphone portable de gaz à effet de serre émis à la fabrication. Alors je ne vous dis pas la fabrication et la fin de vie, parce que la fin de vie, elle coûte rien, parce que la fin de vie, c'est dans nos tiroirs pour un téléphone portable. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ne sont pas recyclés, donc ça ne coûte rien. Le jour où on se mettra réellement à les recycler, ça coûtera quelque chose. Donc il faut en plus se préparer à ça, quand on fait des analyses de cycle de vie. Alors j'ai changé les couleurs parce que les couleurs changent dans le graphique. Là, la partie utilisation est en vert. Alors c'est un petit peu petit, je vais zoomer sur le graphique qui est à gauche. En fait, selon les produits, donc c'est toujours des produits Apple, une Xbox, la partie verte qui est la partie utilisation domine parce qu'on l'achète, elle dure longtemps, en général elle dure 7 à 10 ans. On l'utilise beaucoup et c'est son utilisation qui coûte. Alors que le téléphone, il est à l'autre bout. Voilà, les iPhones, ils sont, c'est ce 95 dont je vous parlais. Donc là, c'est la fabrication vraiment qui domine dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, ils ont pris en compte plus de choses. Ils ont pris en compte aussi le transport et le recyclage. Vous voyez que le recyclage, c'est tout petit. Alors, d'où est-ce qu'on tire des chiffres comme ça ? En fait, il y a le Greenhouse Gas Protocol, qui est un moyen pour les entreprises d'évaluer leur gaz à effet de serre. Et donc, les entreprises donnent maintenant des informations, dont Apple, sur l'impact gaz à effet de serre de chacune de leurs activités. Et donc, ça se divise en trois scopes. Le scope 1, c'est les gaz à effet de serre émis directement par l'activité. Le scope 2, c'est par la consommation d'énergie de cette activité, donc des entreprises, par exemple des usines. Et le scope 3, c'est l'indirect, qui peut aller dans les deux sens, donc upstream vers les mines et l'extraction de matériaux, et downstream vers l'utilisateur. Si on fait un bilan carbone de l'industrie des semi-conducteurs, alors là, c'est juste sur 2020-2021, sur une très courte période, mais on voit que le marché a grossi de 28% entre 2020 et 2021. Et en général, dans les rapports de soutenabilité, les entreprises sont très contentes d'elles-mêmes, et elles ont raison, parce que pour 28% d'augmentation de marché, ils ont augmenté que de 9,5% leur émission de gaz à effet de serre à la fabrication. Le problème, c'est qu'on ne va pas du tout vers le divisé par 7, là. Mais alors, pas du tout. Donc en fait, il y a des efforts qui sont faits. Il y a déjà beaucoup d'efforts qui sont faits dans l'industrie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur la fabrication de semi-conducteurs. Mais on n'est pas dans une réduction actuellement. Donc là, je vous ai parlé de 4... Donc là, ce que je vous disais, c'était 88 millions de tonnes. Donc vous voyez que ça, c'est... alors, scope 1, scope 2, ça, c'est l'énergie. Et le gaz à effet de serre émis par l'énergie. Et ça, c'est les gaz fluorés et tous les gaz émis par la fabrication de semi-conducteurs, en global. Donc l'ensemble, ça fait 88 millions de tonnes. Alors 88 millions de tonnes au regard de 59 milliards, c'est pas beaucoup. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand on veut faire un facteur 7, on ne peut pas se dire ça c'est 1%, j'y touche pas. En fait, si on veut faire un facteur 7 sur l'ensemble, il faut faire un facteur 7 sur chacune des parties. Parce que sinon, tout le monde aura toujours un très bon argument pour pas faire son facteur 7. Et donc, c'est 0,15% du total. Alors on trouve notamment par le Shift Project des estimations à 4%. Du total pour les technologies de l'information et de la communication. Donc on en est assez loin ici. Seulement là, je vous ai parlé que de la fabrication des semi-conducteurs et que du scope 1 et du scope 2. Qu'est-ce qui manque ? Il manque plein de trucs. Il manque les câbles sous-marins qui transportent l'information, il manque les satellites, il manque les mines. En fait, toute l'extraction du minerai qui va jusqu'à la production des métaux, tout ça, c'est pas du tout inclus dans le scope 1 et scope 2 des semi-conducteurs. Là, c'est vraiment que la fabrication du chip, quoi. Il manque tout le cloud computing. Notamment les bâtiments et tout ça. Alors c'est toujours un peu compliqué quand on fait de la life cycle analysis, enfin de l'analyse de cycle de vie comme ça, c'est qu'il ne faut pas compter deux fois certaines choses. Donc si on compte un bâtiment dans les cloud computing, on ne va pas compter le même bâtiment dans les bâtiments, justement. Il manque tous les systèmes de refroidissement. Il manque les écrans. Les écrans à eux seuls, c'est de l'ordre de grandeur de 30 millions de tonnes de CO2 par an à la fabrication. Il manque les batteries. Il manque beaucoup de choses. Donc maintenant, comment on intervient ? Là, vous connaissez ça très bien. Il y a plein de communautés qui se créent et qui sont très très actives autour du Green IT, Green ICT, Green Networking, Green Computing, etc. Les moyens d'agir, ils sont très nombreux en fait. Donc soit, si on veut faire un facteur 7, soit on fabrique 3 fois et demi moins et 2 fois mieux, soit on fabrique 3 fois et demi mieux et 2 fois moins, etc. Enfin, on a des moyens d'agir, mais il faut se poser beaucoup de questions et il faut que les ingénieurs qui produisent les systèmes soient extrêmement au courant de tout ça et des impacts de tout ce qu'ils produisent. Donc faire de la basse énergie, faire du réparable, du modulable, casser ce cycle de refabrication en fait, qui pour l'instant est trop rapide. Et donc en quoi est-ce que l'open hardware peut aider ce processus-là ? Donc l'open hardware, c'est quoi ? C'est comme l'open source software, mais plus matériel, en fait, plus proche du matériel. Alors, ça prend différentes formes. L'idée, c'est de produire du matériel qu'on peut étudier, modifier, redistribuer, exactement comme on le fait depuis longtemps en logiciel, mais ce n'était pas encore l'habitude dans le matériel. Et donc, il y a une notion de sincérité, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire du faux open source, ou finalement, comme les docs, comme la documentation, comme les plans qui sont fournis ne sont pas faits réellement pour aider à la réutilisation, et bien finalement, ça n'a pas d'impact. Donc je pense que ce soit dans la soutenabilité ou dans l'open source, finalement, il y a une notion de sincérité. Il faut que la personne qui utilise cette technologie-là ait réellement envie d'avancer sur ce sujet-là. Ce ne soit pas un produit d'un autre objectif. Et donc ça peut aider à lutter contre l'obsolescence. Alors si on regarde Linux, hein, c'est 1991, et il y a encore plein de bouts de code des origines qui sont utilisés. Et puis quand on regarde du côté logiciel aussi, tous les compilateurs, on voit que les outils qui sont maintenus par des communautés sont supérieurs sur le long terme. Et donc sur la documentation ouverte, ça aura un impact très important aussi. Donc ce open source hardware, il intervient à plusieurs niveaux. Donc il peut être au niveau du circuit imprimé, hein, la Raspberry Pi, le Arduino, tout ça, c'est des cartes open source. Il intervient au niveau de la structure reconfigurable, donc quand on reconfigure un FPGA, faire la notion d'IP, de faire des blocs matériels reconfigurables. Et puis il peut intervenir aussi, alors même si ce n'est pas encore beaucoup le cas, au niveau de la ASIC, donc la fabrication du processeur lui-même, d'un composant lui-même. Et donc en termes d'outils, ça peut être soit les outils de conception qui sont open source, soit les IP, les morceaux de système, soit des systèmes complets. Et donc tout ça se développe actuellement, et la communauté est en train de se structurer. Donc ça, je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais donc, ce que peut faire l'open source hardware, c'est mettre en place des technologies de long terme qui nous permettent de ne pas redesigner tout le temps les mêmes systèmes. Et donc ça peut avoir un impact sur la soutenabilité si l'impact des décisions est compris, sinon ça fera juste de l'effet rebond. Et donc on a besoin des analyses de cycle de vie qui vont avec. Pardon. Donc au sein du GDR SOC 2, il y a pas mal de réflexions autour de tous ces sujets-là. Les SOC soutenables étaient le thème de l'année 2020. Le GDR SOC 2 est très impliqué dans les technologies open source hardware, notamment le RISC 5 qui prend beaucoup d'importance aujourd'hui. Donc le RISC 5, c'est un processeur dont l'ISA est open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut implémenter son propre RISC 5 et il sera compatible avec les compilateurs qui sont fournis par la communauté. Et donc ça permet de créer des technologies dont on sait qu'à long terme, on pourra les maintenir sans être obligé de repartir, de dépendre de couches basses qui vont devenir obsolètes par nature. Et donc il y a plusieurs groupes du GDR SOC 2 qui sont impliqués dans ces thèmes-là. Alors, je vais vous parler d'autre chose. Donc, je suis porteur d'un projet à Rennes qui s'appelle le projet ESOS. Et ESOS, c'est électronique soutenable, ouverte et souveraine. Donc, c'est un projet compétences et métiers d'avenir. Et l'idée de ce projet, donc, qui démarre maintenant, en fait, qui a démarré le 1er mars, c'est de former à ces sujets-là, de former à l'électronique soutenable pour aller vers ces objectifs de réduction très très forte, notamment de CO2. Donc c'est un projet qui est financé à hauteur de 6,4 millions d'euros et qui a pour objectif de former à la fois les étudiants, les enseignants et les professionnels sur ces sujets pour avancer très vite. Parce que si on dit qu'on doit faire un facteur 7 d'ici 2050, les étudiants qu'on forme actuellement, ils seront encore en poste en 2050. Donc c'est eux qui devront conduire ce changement-là. Et donc le type de cours qui commence à être créé dans le cadre du projet, c'est analyse de cycle de vie, faire de la comptabilité de notamment carbone, la conception open source au niveau PCB, au niveau SOC, contribuer à des projets open source, notamment open source hardware, travailler sur les nouveaux substrats d'électronique de puissance qui permettent d'être plus efficaces énergétiquement, et puis prendre en compte les autres contraintes des systèmes, parce qu'on est quand même obligé de produire des systèmes qui restent efficaces en termes de sécurité, en termes de sûreté de fonctionnement, en intégrant ces nouveaux aspects de soutenabilité. Donc il y a beaucoup d'aspects légaux et business aussi, comment faire un business model qui fonctionne avec de la soutenabilité, qui sont très importants. Donc voilà, on recrute 13 enseignants chercheurs, donc je fais un petit appel. Voilà, j'ai mis le site. C'est pas encore en ligne, mais ça va l'être très bientôt. Et merci à tous.